à Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide dans votre compagnie. Il est 17h30 en temps universel, à 12h30 dans la capitale américaine. Nous sommes le mardi 31 décembre 2019, le dernier jour de l'an. Le compte à rebours pour accueillir 2020 a démarré à travers la planète, tandis que certains pays ont déjà célébré le passage à la nouvelle année. Décalage horaire oblige. Festivités dans le monde. Et maintenant, les titres qui font l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde. Un pétrolier grec attaqué au large du Cameroun par des hommes armés. 8 marins ont été enlevés, un autre blessé par balle. En Angola, gèle des comptes bancaires d'Isabel Dos Santos et de son époux dans le cadre d'une enquête pour corruption. Pour la fille de l'ex-président Dos Santos, la vérité l'emportera. Une foule d'Irakiens pro-Iran prend d'assaut l'ambassade américaine à Bagdad. Le président Donald Trump accuse Téhéran d'avoir orchestré l'attaque. Ne ratez pas non plus vos rendez-vous avec les sports et l'économie dans environ 10 minutes. Des individus armés ont enlevé le capitaine et 7 membres d'équipage d'un pétrolier grec ancré au large du port de Limbé au Cameroun. C'est ce qu'ont indiqué aujourd'hui le ministère grec de la marine marchande et l'armateur du pétrolier. John Lyndon pour les détails.
L'incident a eu lieu lundi soir à 23h30 heure locale et les autorités grecques l'ont appris très tôt mardi matin selon un représentant ayant requis l'anonymat. Pendant l'attaque du Happy Hour, nom du pétrolier, un membre grec de l'équipage comptant 28 marins a été blessé. D'après un représentant de l'armateur grec, un groupe armé est monté à bord du pétrolier et a ordonné aux 8 personnes de l'équipage, dont le capitaine âgé de 45 ans, de quitter le Dunker. Selon ce représentant, il n'y a pas eu d'échange de tirs, le Dunker ne disposant pas d'armes. Le ministère grec de la marine marchande a confirmé ces informations mardi matin et précisé que parmi les 8 marins enlevés figuraient 5 Grecs, dont le capitaine, 2 Philippins et 1 Ukrainien. Les autorités camerounaises n'ont pas confirmé l'attaque dans l'immédiat, mais les enlèvements pour rançon sont relativement fréquents dans le golfe de Guinée. Il s'agit du 3e incident de ce genre en un mois après ceux de Lomé le 13 décembre et de Libreville le 21 décembre. 2 de ces incidents ont frappé des armateurs grecs.
En République centrafricaine, le gouvernement et la mission de l'ONU dans le pays, la MINUSCA, ont indiqué aujourd'hui vouloir procéder au désarmement du PK5, quartier commerçant à majorité musulmane de Bangui, où de violents affrontements ont tué plus de 30 personnes dans les derniers jours. En Angola, le tribunal de Luanda a ordonné le gel des comptes bancaires et des actifs d'Isabel Dos Santos. Elle est la fille de l'ancien président du pays, José Eduardo Dos Santos, de même que ceux de son époux Sindika Dokolo. C'est un jugement rendu dans le cadre d'une enquête pour corruption. La famille Dos Santos accuse le gouvernement de l'actuel chef de l'État, João Lourenço, de la persécuter. Compte rendu, Nathalie Barge.
La justice leur reproche des irrégularités dans des affaires impliquant la compagnie pétrolière nationale Sonangol et la société publique de commercialisation des diamants Sodiam. Isabel Dos Santos a dirigé la Sonangol de 2016 jusqu'à son éviction fin 2017, quelques mois après l'arrivée au pouvoir de João Lourenço. Selon le procureur, le préjudice subi par l'État congolais est estimé à plus d'$1 milliard. Hormis le gel des comptes du couple, le tribunal de Luanda a ordonné le gel de leur participation dans plusieurs entreprises, dont la société de télécommunications Unitel et la cimenterie Simangola. L'homme d'affaires portugais Mario da Silva est également visé par cette décision. Et le fils de l'ancien président José Filomeno dos Santos comparaît depuis début décembre à Luanda pour des faits de corruption.
Isabelle Dos Santos a réagi dans un tweet en envoyant ce qu'elle appelle un message de confiance à ses équipes. Nous continuerons tous les jours à faire des affaires, à faire de notre mieux. La route est longue, la vérité l'emportera, écrit-elle. En Guinée-Bissau, le président sortant José Mario Vaz a achevé en larmes son discours de nouvel an aujourd'hui, à la veille de l'annonce du vainqueur de la présidentielle. Il a appelé la classe politique à maintenir la paix civile et à restaurer la stabilité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest à l'histoire tumultueuse. La Ligue arabe affirme vouloir empêcher les ingérences en Libye où le gouvernement de Tripoli a signé deux accords avec Ankara dont l'un porte sur la coopération militaire.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans l'actualité internationale, des milliers de partisans de paramilitaires irakiens pro-iraniens ont forcé l'entrée de l'ambassade des États-Unis à Bagdad aujourd'hui pour protester contre des raids américains en Irak. La riposte des forces américaines ne s'est pas fait attendre. Salwa Jaafari.
Les manifestants se sont acharnés avec une violence inouïe sur toutes les portes de l'enceinte. Les milliers de combattants et de partisans de l'Hashd al-Shaabi sont parvenus à traverser sans encombre l'ensemble des checkpoints de l'ultra sécurisé zone verte.
Ceci est un message à Trump et à l'ambassade et au consulat américain à Bagdad et au consulat à Erbil et Basra. Attention, vous avez touché nos soldats et nos frères en armes et en djihad. Attention, le feu atteint votre ambassade et nous n'épargnerons pas un Américain ou un journaliste américain.
La foule en colère s'insurge contre les raids aériens américains qui ont tué dimanche 25 combattants des brigades du Hezbollah, un groupe armé chiite irakien membre de l'Hashd al-Shaabi, une coalition paramilitaire dominée par des fractions pro-Iran et intégrée aux forces régulières irakiennes. Les forces américaines ont alors tiré des grenades lacrymogènes depuis l'intérieur de la chancellerie. Le président américain Donald Trump accuse l'Iran d'avoir orchestré ces violentes manifestations. Il a affirmé mardi qu'il attendait de l'Irak qu'il utilise ses forces pour protéger l'ambassade américaine.
Oui, le président américain qui a par ailleurs loué ce mardi l'excellente coordination entre les États-Unis et la Russie ayant permis de déjouer un attentat à Saint-Pétersbourg. Les services de sécurité russes, il s'agit du FSB, ont indiqué avoir incarcéré deux hommes soupçonnés d'avoir voulu commettre un attentat à Saint-Pétersbourg dans des endroits très fréquentés lors des célébrations du Nouvel An et prêter allégeance au groupe État islamique. Le FSB a précisé que ces arrestations avaient été réalisé sur la base de renseignements reçus de ses partenaires américains. Le Kremlin avait préalablement fait part des remerciements adressés par Vladimir Poutine à Donald Trump. Bien qu'opposé farouchement sur de nombreux dossiers internationaux, Moscou et Washington pointent régulièrement leur volonté réciproque de lutter contre le terrorisme. Le président américain a également annoncé aujourd'hui la signature prochaine de l'accord commercial partiel conclu avec la Chine après des mois d'affrontements à coups de droits de douane punitifs. La cérémonie est prévue pour le 15 janvier 2020 à la Maison-Blanche. Elle aura lieu en présence de hauts responsables chinois, a indiqué Donald Trump, actuellement en vacances en Floride. Le locataire de la Maison-Blanche a par ailleurs indiqué qu'il se rendrait à une date ultérieure à Pékin où démarreront les pourparlers pour la phase 2 de cet accord. Les festivités démarrent bientôt dans de nombreuses régions du globe pour accueillir l'année 2020, mais décalage horaire oblige les pays de l'Océanie tels que la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont déjà donné le coup d'envoi des célébrations mondiales du Nouvel An, même étouffées par un nuage de fumée toxique causé par d'immenses incendies. La ville australienne de Sydney a ouvert le bal avec un feu d'artifice géant, comme nous le dit Abdourahman Dia.
première mégapole à basculer dans la nouvelle décennie, la plus grande ville d'Australie a affronté une polémique sur l'opportunité de ce spectacle haut en couleur dans un contexte de catastrophe naturelle. Depuis des semaines, les habitants de Sydney vivent dans une atmosphère polluée par un nuage de fumée toxique lié à des incendies qui font rage autour de la ville. Une pétition qui a recueilli plus de 280 000 signatures a demandé l'annulation de cet événement par respect pour les victimes. Les autorités de la ville ont refusé d'accéder à cette demande. À Hong Kong, après plus de 6 mois de manifestations quasi quotidiennes, des milliers de manifestants pro-démocratie ont formé de longues chaînes humaines pour attendre le passage à 2020. Les grands feux d'artifice traditionnels ont été annulés pour des raisons de sécurité. À Paris, entre 250 000 et 300 000 personnes sont attendues sur l'avenue des Champs-Élysées, mais la grève qui perturbe les transports en commun de la capitale française pourrait les décourager. Pour les Britanniques, ça devrait être le dernier réveillon comme membre de l'Union européenne avant le Brexit prévu le 31 janvier. À Rio de Janeiro, plus de 2000 policiers ont été mobilisés pour assurer la sécurité des festivités du Nouvel An sur la célèbre plage de Copacabana qui attend près de 3 millions de personnes. Et ici aux États-Unis, les mesures de sécurité ont été renforcées à New York. 1,5 million de personnes sont attendues à Times Square pour célébrer le Nouvel An.
Cadeau de fin d'année, Nanit Talami nous rejoint en direct pour la Minute Éco. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. En Angola, un tribunal a ordonné le gel des avoirs d'Isabel dos Santos, fille de l'ancien dirigeant du pays et femme la plus riche d'Afrique. Le gel s'applique aussi au compte bancaire personnel de son mari Dokolo et de Da Silva, président de Banco de Fomento en Angola, ainsi qu'aux participations qu'ils détiennent dans des sociétés angolaises. Selon la justice, les trois accusés ont causé des pertes à l'État de plus d'1 milliard de dollars. Les juges pensent qu'Isabel dos Santos avait déjà tenté de transférer certaines de ses entreprises en Russie. La police portugaise a aussi bloqué un transfert de 10 millions d'euros de l'un de ses partenaires commerciaux vers la Russie. Le CENO, la compagnie pétrolière d'État libyenne, envisage la fermeture de son port ouest de Zawiya et l'évacuation du personnel de la raffinerie qui s'y trouve en raison d'affrontements à proximité. Le NOC pourrait également fermer le champ pétrolifère El Sharara, dont le brut est exporté via le port de Zawiya, la plus grande raffinerie de Libye qui fonctionne, desservant Tripoli et les régions de l'ouest et au sud du pays.
Autre cadeau de fin d'année, Eric Manirakiza nous rejoint également en direct pour un condensé de l'actualité sportive. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jacques.
On commence par cet exploit kényan en athlétisme. Eh bien, il s'agit d'un doublé à la corrida de la Saint-Sylvestre de Sao Paulo.
Oui, Jacques, les Kenyans Kibiwot Kandi et Bridget Koskei ont remporté mardi les catégories masculines et féminines de la 95e édition de cette corrida courue le dernier jour de l'année dans les rues de Sao Paulo sur une distance de 15 km. Kandi a soufflé sur la ligne l'Ougandais Jacob Kiplimo pour une seconde et signé au passage le record de la course. Le Kenyan de 23 ans est le premier à parcourir les 15 km de la Saint-Sylvestre en moins de 43 minutes. L'autre Kenyan, Titus Ekiru, complète son podium 100% africain avec un chrono de 43 minutes 54 secondes. Chez les dames, Jacques, la Kenyan Brigitte Koskei s'est largement imposée loin devant le peloton avec un temps de 48 minutes 54 secondes, devenant l'une des trois femmes à passer sous les 50 minutes. Une autre Kenyane, Sheila, s'est hissée à la deuxième place devant l'Éthiopienne Tissadik Allen Nigus, troisième. Plus de 35 000 coureurs ont disputé cette année la course historique créée en 1924, applaudie par des centaines de personnes dont beaucoup étaient vêtues de coutumes déguisées.
Football, on parle beaucoup du mercato d'hiver en Europe, déjà lancé par les signatures de Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan et d'Erling Braut Haaland à Dortmund.
Un mercato lancé avant son ouverture mercredi, mais les cadors du continent ne devraient pas plus l'affoler jusqu'à sa clôture le 31 janvier. L'hiver sera doux à Madrid comme à Barcelone, bien que les deux rivaux se livrent un combat ardent en tête de la Liga. La Maison Blanche réfléchit plutôt à la saison prochaine. Les médias locaux s'enflamment déjà avec les rumeurs de Kylian Mbappé ou Paul Pogba Du côté Blaugrana, on serait prêt à investir cet été près de 75 millions d'euros pour attirer l'Argentin de l'Inter, Lautaro Martinez, annoncé comme le successeur de Luis Suarez. L'Atlético de Madrid pourrait être tenté de recruter rapidement les noms des attaquants Edson Cavani du PSG et Andrea Belotti, Torino, circulent. En Angleterre, le leader Liverpool n'a pas attendu les autres pour faire son marché de Noël en ayant déjà annoncé le recrutement du prometteur attaquant japonais Takumi Minamino pour 8,5 millions d'euros. Chelsea attend toujours.
Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
C'est l'heure maintenant d'aborder notre segment magazine dans le monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. 2019 tire à sa fin en ce dernier jour de l'an, bien évidemment, ce mardi 31 décembre. L'occasion de vous proposer une petite rétrospective des événements qui ont marqué l'année qui se termine, les perspectives également pour l'an 2020 et comment on se prépare en Afrique notamment pour accueillir la nouvelle année. Nous commençons par le Mali. Cette année, la crise sécuritaire et économique qui pèse sur le pays se fait ressentir davantage dans l'organisation des fêtes dans les familles. Beaucoup n'ont pas les moyens et pour certains, le climat sociopolitique ne se prête plus aux grandes célébrations. Des mesures sécuritaires sont prises par le gouvernement pour le bon déroulement des fêtes. Kassim Traoré revient sur les préparatifs de la Saint-Sylvestre à Bamako.
Nettoyage par-ci, coup de pinceau par-là. C'est l'ère des grandes toilettes dans les bars et autres espaces de loisirs à Bamako. Dans les marchés, les clients ne se bousculent pas, tout comme dans les salons de coiffure Tutti Beauté.
Vous-même, vous voyez dans le salon, il n'y a pas assez de clientes. Maintenant, nous, on fait plus poser les perruques. C'est une seule fois, quoi. Donc, il suffit pour elles seulement de donner un coup de main. Donc, ce n'est plus la peine de venir au salon. Donc, du coup, ça porte un coup dur à notre marché. Donc, cette année, mais bon, c'est pas comment on va préparer, on va fêter, mais bon, on essaierait de faire quand même de notre mieux pour être dans la joie, dans la gaieté.
Dans les rues de Bamako, chacun y va de sa méthode pour préparer la Saint-Sylvestre, mais avec des fortunes diverses.
En fait, moi, pour l'instant, je n'ai rien prévu pour les 30. Déjà, j'ai 40 à 45 ans, donc je pense que la fête, c'est pour les enfants, quoi. Tu vois, avec l'insécurité aussi, c'est pas bon d'aller en ville pour aller faire.
En ce qui concerne la fête du 31 décembre, bon, nous laissons ça aux enfants. Moi, je vais fêter en Casanier, j'ai fait avec ma famille dans la maison. On va manger et puis boire légalement. Voilà, c'est fini.
Dans les Grand City Boy de Djelibougou, Abdraman Doukouri et ses amis cotisent pour les réveillons de fin d'année. Mais cette année, ils fêtent en famille.
Et les choses sont dures maintenant. Le panier de la ménagère n'est vraiment pas à la hauteur. Mais voilà, comme c'est une seule nuit là, on préfère rester à la maison et fêter. Je sais que contrairement à l'année dernière, les gens avaient un peu d'argent. Mais cette année, ce n'est pas trop. Comme auparavant, parce que tout le monde sait que ça ne va pas trop, il n'y a pas d'argent, les gens se plaignent de beaucoup de choses.
La famille Diallo organise une réception, mais dans la nuit du 31 décembre, madame est programmée à son service.
Déjà, je suis inquiète parce que je suis face à une situation. Le 31 décembre, mon mari invite des amis à la maison, et alors que le 31, je suis programmée au boulot. Donc, je serai obligée de me réorganiser pour pouvoir accomplir la mission au niveau du bureau et à la maison aussi, faire tout pour mieux accueillir les invités la nuit du 31 décembre.
Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre a réuni les patrons de la sécurité à Bamako, décidé de la conduite à suivre. Le général de division Salif Traoré, ministre de la Sécurité et de la Protection civile.
Depuis quelques années, le gouvernement interdit régulièrement l'utilisation des pétards pendant cette période-là. Je voudrais encore insister que cette année encore, c'est interdit. Je voudrais également rappeler les parents pour les enfants qui utiliseraient des motos de faire en sorte que ces enfants-là soient protégés. Ceci étant, des dispositions vigoureuses sont prises déjà depuis quelques jours. Elles seront amplifiées jusqu'au jour de l'an. Et donc, il y aura beaucoup d'éléments supplémentaires qui seront dans les rues, en civil, en moto, dans les véhicules, et même les chiens seront mis à contribution à l'intérieur des villes et sur les grands axes.
La fête dans la prudence, c'est le souhait des autorités. C'est là à cause de la situation sécuritaire du pays. Un pays engagé dans la lutte contre le terrorisme. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Bénin, on va également fêter indubitablement. Et là, je vais reprendre les mots de notre correspondante sur place pour me mettre à l'abri. Elle nous dit que les périodes de fêtes de fin d'année sont des moments de tous les excès pour les jeunes. Et d'ailleurs, la nuit du 31 décembre au 1er janvier est baptisée la nuit de tous les excès par certains. Accidents de circulation, des jeunes ivres déambulant dans les rues, des jeunes filles à peine vêtues. Année après année, les débordements sont toujours au rendez-vous. La modération est donc toujours recommandée, c'est le maître mot. Je vous propose le reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adambé.
Décembre est connu comme étant le mois de tous les excès. Vente de produits frelatés, hausse des accidents de circulation et une explosion de la dépravation au niveau des jeunes. Pour Bakary Seydou, étudiant à l'université d'Abomey-Calavi, le phénomène trouve son essence dans la démission des parents face à leurs responsabilités.
La dépravation des mœurs à l'approche des fêtes, c'est une réalité qu'on ne doit pas nier parce que c'est une période durant laquelle les parents accordent l'autorisation aux enfants de se divertir. Ceux-ci ayant l'accord de leurs parents. Alors, ça donne à tout.
Pour Ernest Comelan, ces comportements relèvent de la faute des parents.
Pour les filles, la meilleure stratégie pour attraper dans leur filet le maximum de nombre élevé d'hommes capables de les aider à célébrer le 25 dans un bar, le 31 dans un autre bar et le premier quelque part au bord d'une plage avec suffisamment de la musique et des boissons à côté. Je pense que les responsables de ce fléau-là sont tapis dans leur maison pendant que les victimes d'innocents s'exposent tranquillement dans la rue.
Quelques filles rencontrées au marché ne nient pas la chose. Pour elles, à quoi servirait un homme s'il ne peut pas faire face aux dépenses de sa chérie pendant les fêtes de fin d'année? Elsie Kaba est étudiante en deuxième année de droit.
Vous voyez les hommes, si moi, à l'approche des fêtes, je dois avoir des sous. C'est obligatoire. Les choses sont chères. Il faut bien que celui qui se dit mon homme m'assume mes dépenses. Il y a des hommes vraiment pingres qui ont besoin qu'on les dépouille un peu pendant les fêtes. Tu chemines 365 jours avec un pingre, il faut bien le lui faire payer le dernier jour. Moi, c'est sans état d'âme. Je n'en ai aucune honte.
Même son de cloche chez Carlette Bocor, étudiante en diplomatie et relations internationales.
Oui, j'ai l'habitude de m'accrocher aux hommes à la fin d'année juste pour passer du bon moment avec. Ça dépend de la manière dont je les gère. C'est pas eux tous. Parce que il y a un qui est principal dedans. C'est lui qui gère tout. Les autres là, ils sont là pour m'offrir des petits cadeaux.
Le psychologue Raoul s'attendit, tout en regrettant la vitesse à laquelle les valeurs morales s'échappent du quotidien des Béninois, pense que la dislocation du tissu familial explique le phénomène de la dépravation.
Aujourd'hui, avec la dislocation de la famille, avec les familles qui sont dissociées, avec les enfants qui s'éduquent eux-mêmes, avec les parents qui abandonnent leurs responsabilités, avec une société où on observe toutes les formes de dépravation possibles, cette interaction-là ne peut que créer la conséquence que nous avons aujourd'hui, de voir que les gens s'adonnent de plus en plus dans la vie de relation à un certain nombre de comportements. Mmh. Et donc, il faut donc penser à corriger cela à travers la famille.
Le mal est profond avec son lit de conséquences. Même si la famille reste le dernier rempart pour corriger les choses, une prise de conscience s'impose au niveau des jeunes. Les fêtes de fin d'année ne durent que quelques jours et les conséquences resteront pour toute la vie. De Cotonou, Ginette Fleur Adambé pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous dans À votre avis ce soir à 18h05 temps universel sur VOA Afrique. Dans quelques heures, nous serons en 2020, marquant le début d'une nouvelle décennie. C'est l'occasion pour beaucoup de tresser leur liste de résolutions pour la nouvelle année. Plusieurs chefs d'État, lors de discours de vœux, en profitent pour annoncer de nouvelles mesures et des projets pour leur pays. Quels sont vos projets personnels et vos souhaits pour 2020? Qu'attendez-vous de vos dirigeants? Laissez-nous vos numéros et commentaires sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. Rendez-vous donc à 18h05 temps universel sur VOA Afrique.
Comment prépare-t-on le passage au nouvel an? Côte d'Ivoire, à Boaké, la deuxième ville du pays, les choses semblent un peu timides cette année. Chacun y va à son rythme, mais la nouvelle année ne doit pas passer inaperçue. C'est également la période des dernières tendances en matière de coiffure. À Boaké, Aïcha Diarra s'est penchée sur les dernières tendances coiffure de la gent féminine avec les mèches, suivons son reportage.
Des préparatifs de fête plutôt timides cette année à Boaké et cela se ressent par le trafic dans les rues. La construction du nouveau marché de la ville a compliqué la situation. On a fait déplacer des commerçants et les tresseuses de leur place habituelle sur un autre site. Mais n'empêche qu'il faut se rendre belle en cette fin d'année. Et les panneaux publicitaires ne manquent pas d'originalité pour orienter les femmes dans le choix de leurs accessoires de beauté. Les magasins de mèches ne désemplissent pas. Chacune a sa préférence pour se sentir belle. Victoire Onozan a du mal à faire un choix parmi tout ce qu'elle a sous les yeux. L'essentiel pour elle, c'est qu'elle soit des mèches closure.
J'aime le closure parce que c'est à la mode. Et puis quand tu le fais, c'est joli quoi.
Johanna Kwako, une autre cliente, quant à elle, préfère les mèches naturelles.
Je suis là pour une nouvelle tête. J'aimerais faire les mèches naturelles.
En fait, les noms diffèrent, mais ce sont les mêmes types de mèches. Les closures sont des mèches naturelles. C'est la tendance cette année, nous confie Jakarija Diallo, commerçant de mèches.
Nous, actuellement, c'est les naturels qui sont les naturels et closures. Là. Voilà, c'est ça qui sont actuellement. Il y a tous les prix, il y a pour 15 000, 20 000, 30 000, 40 000. Ça va jusqu'à 60 et à 70 000. C'est que ça dépend de la qualité, quoi.
Voilà. Une fois chez les tresseuses, même s'il y a d'autres tresses qui se font, les plus appréciées sont les naturelles avec closure. Blondine Kofi est tresseuse.
Cette année-là, la coiffure qui sort beaucoup, là, c'est les mèches tissage closure, là, avec les tresses, les macoussis, bon, tout mèche, là, c'est ce qui sort beaucoup cette année.
Pourquoi cette attirance si particulière pour les mèches naturelles? La réponse nous est donnée ici par Marina Bakayoko, elle aussi coiffeuse.
Attends,
ça ne sèche pas. On peut les tresser plusieurs fois. Une fois fatigué des tresses, on peut l'utiliser ensuite pour en faire des perruques. Il y a l'envie des clientes et ce qui leur correspond le mieux. Il faut pouvoir les convaincre afin d'avoir bonne presse après coiffure, nous dit Geneviève Kona.
Les cheveux avec les cheveux naturels, là, ça ne va pas durer. Puis ça ne va pas donner une bonne allure à la coiffure. C'est la raison pour laquelle je lui ai proposé le nappy.
La jeune féminine, au cours de notre enquête, nous a fait comprendre que la coiffure est le premier accessoire de beauté pour elle pendant les fêtes. Selon la plupart, une belle tête passe mieux avec de vieux vêtements bien entretenus. Aïcha Diarra à Boaké pour VOA Afrique.
De grandes festivités aux États-Unis également. Cette veille du Nouvel An, environ 1 million de personnes sont attendues dans les rues de Times Square à New York pour faire le décompte des 60 dernières secondes de 2019. La fameuse boule de cristal qui déclenche le compte à rebours s'est refait une beauté pour l'occasion. Des visiteurs du monde entier prennent part à cette tradition remontant à 1907 pour célébrer ensemble le passage à la nouvelle année. Sinatrine a assisté à l'installation de la boule, pièce maîtresse de la soirée du réveillon. Didi Dico a repris son reportage pour nous.
De jour comme de nuit, une foule immense sillonne Times Square toute l'année. De quoi décourager de nombreux New-Yorkais qui voudraient s'y rendre pour le réveillon du Nouvel An.
C'est chaotique.
Ça va être tellement bondé, on va probablement regarder à la télé.
À Times Square, surnommé le carrefour du monde, environ 1 million de personnes prendront part au décompte des dernières secondes de 2019. Marqué par la chute de l'emblématique boule en cristal.
Beaucoup de préparation, de vérification et de revérification à maintes reprises en prévision du réveillon du Nouvel An. C'est sympa d'être ici.
C'est New York et c'est ici que le Nouvel An se passe.
La boule est recouverte de 2688 triangles de cristal illuminés de l'intérieur par plus de 32 000 ampoules. 192 des triangles découpés à la main sont remplacés par un nouveau modèle, avec un thème différent chaque année.
Le thème et le design de cette année est le don de bienveillance, le symbole de générosité, de bonne volonté, le symbole de la bienveillance et de l'hospitalité et l'ananas, et ce, depuis des générations, voire des siècles. Vous pouvez donc voir ces ananas les uns à côté des autres, méticuleusement gravés dans ces cristaux.
Depuis ses débuts, en 1907, la boule en cristal a connu plusieurs looks. La version moderne est contrôlée par un ordinateur dans sa descente de 60 secondes à partir de 23h59. April Fowler et sa fille sont venues de la Caroline du Nord. Elles braveront le froid et la foule pour apercevoir la célèbre boule de cristal.
Je l'ai vu à la télé, c'est quelque chose que je regardais quand j'étais enfant. Donc être ici et pouvoir enfin le voir de mes propres yeux, c'est super excitant.
C'est une célébration mondiale de la bienveillance.
Ce que j'aime, et j'espère que tout le monde pourra faire au cours de cette nouvelle année, c'est de un instant pour voir le côté positif de chaque situation, car il y en a toujours un.
Alors.
Et voilà pour le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Toute la rédaction de VOA Afrique se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2020. C'est déjà bien.